Ah, bonjour tout le monde, bon jeudi. Je ne sais pas si vous avez été comme moi un petit peu intrigué par cette histoire d'enlèvement d'une adolescente de 12 ans, donc en Estrie. On va parler à Claude Poirier dans quelques instants. Il va nous raconter la belle époque, façon de parler, où il y avait beaucoup d'enlèvements au Québec. Mais d'abord, on va aller rejoindre Martine Asselin, qui est la porte-parole pour la Sûreté du Québec, donc dans cette affaire d'enlèvement. Capitaine Asselin, bonjour.
Bonjour, M. Drinville.
Alors, faites juste nous rappeler un petit peu les faits, là.
Bien, dans le fond, hier matin, la jeune fille qui se rendait à l'école a été embarquée, si on veut, par au moins deux suspects dans un véhicule de type Econoline. Puis par la suite, la jeune fille a été apportée dans la résidence là, de la rue des Fougères, qu'on a pu un peu voir dans les médias, une résidence à vendre, donc qui était inhabitée. Mm-hmm. Elle a profité de l'absence là, de ses ravisseurs pour prendre la fuite un petit peu avant dîner, où est-ce qu'elle a pris la fuite à pied pour aller rejoindre un véhicule de police là, pour l'assister. On se rappelle qu'elle était rapportée disparue, donc dans le fond, elle a fait signal à la police là, qu'elle était saine et sauve dans les circonstances, il faut comprendre.
Elle a elle-même réussi à alerter la police?
Oui, exactement. C'est évident que là, il y avait quand même pas mal de policiers dans les différents secteurs, près de sa résidence, dans les différentes rues de Sutton, parce qu'elle avait été rapportée disparue. Puis à ce moment, on pouvait présumer là, que c'était en lien avec une demande de rançon. Donc, rapidement, elle a pu voir un véhicule de police et demander de l'aide.
Comment vous pouvez dire ça, qu'il y avait eu demande de rançon ou que l'enlèvement avait un lien avec une demande de rançon? Est-ce que les ravisseurs ont eu le temps de communiquer avec les parents ou avec les autorités pour demander de l'argent?
Mais sans aller dans les détails à qui la demande a été faite, effectivement, il y a une demande de rançon qui a été faite. C'est pour cette raison-là que nous, on est en mesure d'établir que la cible était vraiment un objectif pécunier et non un objectif là, d'agression sexuelle ou autre.
Là, les médias ont rapporté abondamment que l'un des parents de la jeune fille serait un haut placé dans une banque. Est-ce que oui. C'est exact?
Oui, effectivement.
C'est une information qui est confirmée.
Oui, effectivement. Donc, c'est bon. Le lien qui peut nous apporter à croire là, entre le besoin, la demande de rançon et l'occupation des parents de la jeune fille.
Est-ce que, on a vu des photos de l'un des témoins importants, là, pour ne pas dire suspects dans l'enlèvement. Donc, vous avez déjà un petit peu une idée de qui vous cherchez. Là. Quand vous dites qu'il y a deux hommes, je pense qu'il y en a un des deux à tout le moins. Vous savez un petit peu de qui il s'agit, là.
Bien, on ne connaît pas. Toutefois, oui, on voudrait vraiment le rencontrer. C'est évident que pour nous, il pourrait y avoir un lien avec l'enlèvement de la jeune fille. Dire pour le moment qu'il est suspect, il est un peu trop tôt. Toutefois, vraiment, n'importe qui peut voir la photo ou peut penser qu'il peut le connaître ou ça ressemble à quelqu'un qu'il connaîtrait. On veut qu'il communique avec nous pour comprendre cet homme-là, il faisait quoi à ce moment-là au Tim Hortons. La même chose un peu pour le nouveau véhicule qu'on a dévoilé dans les dernières minutes, donc un Dodge Caravan. Donc là, on a un nouveau véhicule. Est-ce qu'ils ont changé de véhicule? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient avec les ravisseurs? Donc, c'est pour cette raison-là qu'on demande aux gens d'ouvrir l'œil. Et oui, l'enquête avance. On essaie de dévoiler le plus rapidement possible les nouvelles informations afin que les gens qui étaient dans le secteur, possiblement dans le même secteur encore aujourd'hui, ouvre l'œil.
C'est quoi le rapport entre le Tim Hortons et l'enlèvement?
Mais dans le fond, je ne veux pas aller dans tous les éléments d'enquête détaillés. Ce véhicule-là, l'individu a été vu près de cet endroit-là. Est-ce que des témoins l'auraient vu? Est-ce qu'il aurait embarqué dans un des deux véhicules, dans le véhicule type Econoline, dans le Dodge Caravan? Pourquoi qu'il était là? C'est un petit peu ce qu'on veut savoir en rencontrant le témoin.
Comment se porte la petite?
Bien, je vous dirais, une petite fille qui est très courageuse dans les circonstances, je crois qu'elle se porte bien. C'est évident que c'est quand même un événement qui est très difficile à vivre. Heureusement, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est pas un crime qui est à caractère sexuel. C'est sûr que c'est ce qu'elle a vécu va sûrement rester un bon moment dans sa mémoire. Mais elle fait quand même preuve beaucoup de courage à 12 ans de prendre la fuite par elle-même. De fuir à ses ravisseurs. Comme vous l'avez mentionné un peu, on dirait un peu c'est digne d'une histoire de film, mais effectivement.
Donc, on doit comprendre qu'elle n'était pas ligotée, qu'elle n'était pas attachée, qu'elle était libre dans la chambre où il l'avait séquestrée.
Bien, sans aller dans les détails, elle a réussi à se déprendre. Donc, vraiment, là, c'est une petite fille qui a pris vraiment très débrouillarde, puis comme je l'ai mentionné tantôt, très courageuse, a réussi vraiment à se déprendre là, des mains de ses ravisseurs.
Eh oui. Une petite fille allumée, qu'on dirait.
Hein? Oui, tout à fait, c'est très bien dit.
Bravo, Capitaine Martine Asselin. On vous souhaite bonne chance, porte-parole donc pour la Sûreté du Québec. Merci.
Merci à vous.
Juste avant de vous faire entendre, Claude Poirier, je veux juste vous dire, les histoires d'enlèvement, ça me touche particulièrement parce que, je vous l'ai déjà dit, j'ai habité au Mexique pendant 2 ans. Et le Mexique est un pays où il y a beaucoup d'enlèvements en échange de rançon. Et bon, quand on était là, mes enfants allaient au lycée franco-mexicain. Hein, on voulait qu'ils soient éduqués en français. Et à un moment donné, autour du lycée, il a commencé à y avoir des enlèvements. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui attendaient, mettons, qu'un père ou une mère vienne porter les enfants, vienne déposer les enfants au lycée. Ils les kidnappaient. Et là, ils les gardaient pendant le reste de la journée. Ils leur faisaient faire, dans certains cas, le tour des guichets automatiques pour vider le plus possible les comptes. Ils les gardaient après minuit pour qu'il y ait une nouvelle journée qui commence. Là, ils vidaient encore les comptes jusqu'à la limite. Puis là, ils sacraient le père ou la mère de famille dans un fossé quelque part, dans un coin perdu, pas d'argent pour appeler quiconque. Là, tu sais, t'es tout seul, puis t'es, dans certains cas, t'as été malmené. Alors bref, tout ça pour vous dire que ça me touche, ces histoires-là d'enfants, parce que nous autres, à un moment donné, il y en avait tellement qu'on est obligé de demander à ce que quelqu'un accompagne, une espèce de garde du corps, accompagne ma femme qui allait déposer les enfants au lycée. Alors ça m'a un peu touché, cette histoire-là de la petite de 12 ans. Je voulais vous le dire. Et ça m'a aussi, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé le fait que, vous savez, il y a été un temps au Québec, il y en avait beaucoup, beaucoup d'enlèvements, beaucoup. Et je me suis dit, qui de mieux que Claude Poirier pour nous raconter cette époque-là, surtout qu'il a été souvent impliqué comme médiateur ou négociateur dans ces histoires-là. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt, Claude Poirier, donc chroniqueur judiciaire. Toi, tu as connu une époque où il y en avait beaucoup d'enlèvements. Pourquoi il y en avait beaucoup avant et pourquoi tu penses qu'il y en a presque plus maintenant?
D'abord, les policiers ont un meilleur système pour travailler, mais il y avait plus d'argent dans les banques et dans les caisses. Moi, à l'époque des années 70, les cas d'enlèvement, de séquestration, qui pouvaient rapporter 200 000, 300 000, 150 000. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Si je reviens sur cette histoire de cette fillette de 12 ans, c'est imbécile de poser un geste semblable en 2018. On sait que maintenant, les institutions bancaires, le mouvement des caisses populaires, les banques sont équipées maintenant au niveau de ça. Et de plus en plus, il n'y a pas d'argent. Puis troisièmement, après l'affaire Marion, bon, on a beaucoup changé les attitudes au niveau des institutions bancaires et du mouvement des jardins. On ne paye plus les rançons.
Bon.
Et les risques sont énormes aujourd'hui avec tous les médias sociaux. Tu sais, t'enlèves un enfant de 12 ans, tu l'amènes dans un motel ou dans une résidence, n'importe qui peut prendre une photo, n'importe qui peut se douter de quelque chose puis envoyer ça sur les réseaux sociaux. Alors, c'est aujourd'hui, oublie ça, c'est très difficile.
OK. Parle-nous de l'affaire Charles Marion qui reste encore aujourd'hui l'enlèvement, la séquestration la plus longue de l'histoire du Canada, 82 jours.
T'as raison, c'est le plus long enlèvement criminel à jamais survenir au Canada. Marion se fait enlever alors qu'il est avec sa maîtresse. Sa femme savait qu'il avait une maîtresse. Elle avait quelqu'un. Alors, à son salaire, mon repos, il se fait enlever. Moi, j'apprends ça le dimanche soir qu'il y a une affaire d'enlèvement. Quand j'arrive à Sherbrooke le lundi matin, et là, les policiers viennent me voir et me disent « On veut vous voir ». Alors, on me voit, on me remet une lettre, c'est marqué les 7 serpents noirs, et c'était l'affaire de l'enlèvement de Charles Marion. C'est de même que je suis rentré d'une certaine façon dans le dossier de Charles Marion. J'étais parti pour 48 heures, j'ai resté là 64 jours.
Lui, il était gérant de la Caisse populaire de Sherbrooke-Est. Hein?
C'est ça. Sherbrooke-Est, avec sa secrétaire, c'est là qu'à un moment donné, il était parti et c'est-à-dire qu'elle a été ligotée après dans la salle de bain, puis les autres, ils l'ont enlevé. Puis moi, là, j'ai toujours dit, puis j'ai toujours pensé que Marion n'était pas dans son enlèvement. Puis là, ça a été une histoire épouvantable. On a laissé sous-entendre la Sûreté du Québec à l'époque, puis le ministre de la Justice, de la Sécurité publique en chambre à Québec avait dit, on a le contrôle, on pense que Charles Marion était impliqué dans son propre enlèvement. Mais... Ça n'a pas d'allure. Alors un jour, je me suis retrouvé chez Ménic, il rentre un gars, puis il me dit, salut Claude, comment ça va? ça va? Il dit, on peut-tu parler après? Il dit, je vais aller fumer dehors. Quand je suis sorti dehors, il dit, tu me reconnais pas? Je dis, non. Il dit, je suis un des gars dans l'affaire Marion. Il dit, Marion n'a jamais été impliqué dans son enlèvement. Il dit, on l'avait enlevé, puis il dit, moi, j'ai été chanceux que l'autre que je te connaisse, parce qu'il dit, on t'aurait coupé en deux, moi, je t'ai armé d'une mitraillette encore 44, puis j'aurais pu te couper en deux. Puis on sait que les policiers vous ont crossé, toi, puis Normand Maltais, qui aujourd'hui est décédé. Alors, Marion, c'est une des gaffes les pires qu'un corps policier a pu faire, et ça a conduit au suicide de Charles Marion.
Mais c'est ce que j'allais dire. Le gars, il a été séquestré pendant 82 jours dans des conditions épouvantables où on le nourrissait à peine. Moi, je me rappelle encore de la photo quand ils l'ont retrouvé après 82 jours. C'était comme un vieillard. Il avait un regard hagard, une longue barbe. Écoute, c'était épouvantable. Tu voyais la souffrance qu'il avait vécue. Et c'est ça, pendant des années de temps, ça a couru. Où on a laissé courir, qui s'était auto-enlevé, et puis à un moment donné, ça a été prouvé qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, sauf que lui, il pouvait...
Il n'y avait rien à faire là-dedans, puis moi, j'ai rencontré Charles Marion quelques reprises après, parce qu'il a écrit un livre. Puis là, Marion m'avait dit, écoutez, ben Claude, je me rappelle dans sa balançoire, il dit, moi, si j'avais voulu me faire enlever, mais tu sais, pensez-vous, je me serais fait enlever avec ma maîtresse, puis tout Sherbrooke, ça fait ça. Il dit, je me serais fait enlever sa vie. C'est bien vrai, ou si on a déjà vu ça, déjà. Qui ont eu des problèmes dans les institutions bancaires, puis ils ont fonctionné avec du monde, puis ils n'ont jamais fait ça dans une affaire de même. En partant, au départ, l'enquête était tout croche, toute mal faite. On verra pas ça aujourd'hui avec l'expérience des policiers qui ont à la sortie du Québec ou dans les corps policiers, parce que ça avait été travaillé tout croche.
En tout cas, il s'est suicidé, le pauvre. Il s'est suicidé, puis une des raisons, j'imagine, c'est que, imagine-toi, là, t'as subi ça, là, dans le fond... On te condamne pour quelque chose dans laquelle tu n'as rien à voir. C'est toi qui es la victime, puis on essaye de te faire passer pour le criminel.
Ça a tellement été mal fait comme niveau de l'enquête. On l'a crucifié sur la place publique dans les médias. Rappelons-nous que le média a été obligé de payer parce qu'on avait accusé Charles Marion de son propre enlèvement un soir dans un bulletin de nouvelles à Radio-Canada. Ils ont été obligés de régler hors cours. Et heureusement que certaines personnes n'ont pas embarqué dans cette affaire-là. Mais cet homme-là a été marqué. Puis moi, quand je l'avais rencontré quelques temps après, on était allé faire un tour au chalet Mon Repos avec mon collègue Bernard Tétrault d'Allopolis. Puis il nous disait, vous savez, je peux pas aller nulle part. Parce qu'il y a toujours la politique des gens qui disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Le monde me regarde d'une drôle de façon, puis il n'était pas encore sûr. Moi, j'ai fait un documentaire avec son fils, puis son fils avait raison quand il a terminé le documentaire en disant, oui, les gens qui ont enlevé mon père sont responsables, mais il y a des autres personnes qui sont responsables, et c'est la Sûreté du Québec.
Est-ce qu'ils ont retrouvé les ravisseurs?
Oui, ils ont été retrouvés. Valence est mort aujourd'hui. Des autres ont été condamnés à des peines, mais il n'a jamais été impliqué, puis il n'a jamais été accusé. Puis moi, quand ça vient d'un des gars qui a participé, puis il me dit carrément, t'as raison, Poirier, il n'a jamais été impliqué. Je vais prendre bien plus sa parole que certains policiers de l'époque à la Sûreté du Québec.
Ils faisaient ça pour l'argent, les ravisseurs. Hein, ils demandaient 1 million. Est-ce que finalement, il y avait eu quoi? Il y avait eu 50 000, c'est tout ça?
Sa famille a ramassé 55 000. Parce que moi puis Maltais, quand ils se sont demandé 1 million, puis le Mouvement des Jardins, il n'a pas aimé l'âge là-dedans, le Mouvement des Jardins, là, parce qu'ils nous ont crossé. Excusez-moi l'expression, je veux dire, madame, monsieur. Parce qu'ils ont, avec la complicité de la Sûreté du Québec, ils ont changé l'argent. 250 000 dans chaque valise, pendant qu'on allait chercher un communiqué, ils ont mis du carton là-dedans, alors avec des bugs. Alors, ils ont risqué la vie de Maltais et de moi dans cette affaire-là, avec l'assentiment du Mouvement des Jardins. Le Mouvement des Jardins n'a jamais voulu payer.
En tout cas, on est content que l'histoire de la petite fille de 12 ans, elle, se soit bien terminée, puis on va espérer qu'ils vont retrouver les deux bandits, les deux sans cœur. Écoute, là, Claude, enlever un enfant de 12 ans, là, tu t'imagines, là, cette petite fille-là, là, elle va être marquée, là. Elle va être marquée, là.
Ah, elle va être marquée pour très longtemps, puis tu peux pas faire une chose. T'attaquer à un enfant, la prendre à l'école, puis appeler pour dire, on détient votre fille. Voyons donc, là, qu'est-ce que c'est ça? Hey, c'est des coucous, c'est sa vie sur une autre planète, faire une chose de même. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont de l'information. Moi, je ne suis pas un gars qui tue police. Je suis pas un gars pour la dénonciation trop souvent. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont de l'information, gênez-vous pas, parce que ça prend des crapules d'avoir agi de cette façon-là.
Tu as bien raison. Claude Poirier, chroniqueur judiciaire. Toujours un plaisir, Claude.
Merci, 10-4. Au
revoir. Salut, bye. Et dans un instant, on parle de ces villes. Elles sont de plus en plus nombreuses à interdire la consommation de potes sur leur territoire dans les lieux publics. Vous savez que ça va être légal, là. Ça s'en vient, là. Moins d'un mois, là. Puis là, t'as des villes qui disent, il n'y en aura pas de potes dans les lieux publics chez nous. Et on va parler à un des maires, justement, qui a décidé que chez eux, il n'y en aura pas.